Raconter la vie, dit-elle, écrire la vie, le cœur même du projet. L'écriture, l'autre vie, la vie toujours, celle d'une femme et d'une époque, de livre en livre, que ça, la vie, depuis presque 50 ans, tout ça. Un nouveau livre d'Annie Ernaux est toujours une attente et un événement, tant elle a su s'imposer comme une figure majeure de la littérature. Voici donc Le jeune homme, court récit d'une histoire d'amour vécue qui nous donne l'occasion de cette rencontre. Bonjour Annie Ernaux.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous dans cette maison que vous habitez dans le nord-ouest de la banlieue parisienne. Et j'avoue avoir un peu le sentiment de rentrer dans votre intimité, presque plus que de vous lire.
Ah, oui, parce que j'y vis effectivement depuis longtemps et que toute ma mémoire y est, enfin la mémoire la plus importante, parce que j'y ai accueilli ma mère, j'ai vécu avec mon mari avant qu'il parte. Maintenant, il y a mes petits-enfants. J'ai 4 petits-enfants, donc c'est toute mon histoire ici et mon histoire aussi sentimentale en grande partie.
Et c'est le lieu de l'écriture aussi.
Je n'écris pratiquement que là. J'ai écrit quelques livres dans la maison qu'on avait dans la Nièvre, mais je crois me rappeler que deux seulement, mais tous les autres textes ont été écrits ici dans mon petit bureau qui donne sur des sapins au nord, pour ne pas être dérangé par la vue.
Il vous faut quoi pour écrire ? Vous avez des rituels d'écriture ?
Je tâche d'en avoir. Ça n'est pas toujours possible, mais je préfère écrire le matin, le temps qu'il faut. Je veux dire, je m'arrête quand je n'ai plus la force, que quelque chose me dit que ça c'est tout pour aujourd'hui. Un petit peu, c'est un peu ça. Mais il y a des moments où je ne suis pas du tout contente, effectivement, de ce que j'ai fait. Je suis quelqu'un qui n'arrête pas de douter. Et donc chaque livre est toujours précédé d'une phase d'interrogation dont mon journal, l'atelier noir, porte la trace. Mais ça dépend de beaucoup de textes. Par exemple, je me souviens que j'ai commencé Le jeune homme d'une manière résolue, dirais-je. Mais je me suis aussi arrêtée de la même manière. Pour une raison simple, c'est que tout simplement je ne pouvais pas continuer ce texte en continuant de vivre cette histoire. C'était une histoire qui était très enthousiasmante au départ, mais qui était devenue mortifère. Donc ce besoin de prendre de la distance avec mon histoire m'avait fait commencer Le jeune homme. Et puis c'est transformé et j'ai pensé que je ne pouvais pas continuer. Mais ce que j'ai entrepris m'a détaché de plus en plus du jeune homme. Et ce texte qui me détachait de lui, c'est L'événement. Le livre qui est sorti en 2000 et dont un film l'année dernière donc, a montré que, voilà, enfin, il y avait une actualité comme on le voit, puisque c'est au sujet de l'avortement.
Le jeune homme donc a été écrit ici, on va revenir sur cette histoire d'amour avec un homme qui a 30 ans de moins que vous, puisque c'est ça l'histoire. Mais je suis très curieux, Annie Ernaux, donc c'est ici que tous sont vos manuscrits ?
Tous, non, ils sont à la Bibliothèque nationale.
mais tous les manuscrits en cours, enfin toutes les notes,
non,
le journal.
Non. Et alors, chez moi, il y a tout ce qui est inédit, qui n'a pas été continué. Donc, c'est une partie des inédits, je vais en donner au Cahier de l'Erne, son publié là. Non, et mon journal n'est pas à la Bibliothèque nationale.
Il est ici, donc.
Il est chez moi, oui.
Classé année par année ?
Classé par cahier. Ce sont des cahiers sans pages, 96, et à Carreau, à Grand Carreau. Et donc, je les ai chez moi, mais ils sont aussi saisis sur des clés USB.
Au cas où.
Ah oui, c'est ça.
Y a-t-il ici chez vous aussi, Annie Ernaux, les premiers poèmes? Puisque j'ai découvert en lisant le cahier de Lerne qui vous est consacré, parce que c'est votre autre actualité, que vous avez commencé à écrire, jeune fille, des poésies. Alors, pour qui ne connaîtrait pas le cahier de Lerne, c'est un très beau grand volume de 300 pages qui regroupe des contributions d'une quarantaine de personnalités, écrivains, acteurs, philosophes, critiques littéraires autour de votre œuvre, et des extraits inédits de votre journal où vous racontez justement vos débuts en poésie, tout en considérant que c'est une écriture provisoire.
Absolument. J'ai toujours pensé que le poème, c'était la sensation d'un moment. Alors que je suis, depuis très très longtemps, hantée par le temps. Et le temps, pour moi, à l'époque, je disais le roman. Voilà. Et je me souviens avoir rencontré au Havre, par l'intermédiaire d'une étudiante qui était amie avec moi, un poète qui s'appelait Gérard Muraille. Et Gérard Muraille m'avait accueilli un après-midi chez lui avec cette amie, et il me demandait pourquoi je voulais faire du roman, parce que lui, c'était vraiment la poésie. Et c'était la réponse que je lui avais faite, que ça ne pourrait être que dans le roman que je développe pleinement, au fond, ce que je voulais dire.
Pour autant, vous n'avez pas écrit de roman?
Eh non. si, le premier.
Qui n'a jamais été publié.
Non, mais j'ai écrit quand même un deuxième. C'est Ce qu'ils disent ou rien, c'est un roman. C'est mon deuxième livre. Et je l'ai écrit très vite. J'ai eu l'impression de manquer quelque chose.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a manqué? Parce que votre œuvre est autobiographique, mais selon une définition un peu particulière de l'autobiographie, parce que vous ne racontez pas que votre vie, vous racontez justement la vie.
Oui, c'est ça. Et ce qui m'a manqué, c'est en fait de réfléchir à la forme. Et pour tous les livres ensuite, et notamment à partir de La Place, je mets tellement de choses dans l'écriture, et je commençais vraiment tellement à me poser des questions que c'est la forme de ce que doit contenir mon propos et comment je vais l'organiser qui était le plus important. Et le récit de la vie de mon père a été ce moment où je me pose vraiment la question de comment parler de quelqu'un d'autre que moi, de parler d'une vie qui était tellement aux antipodes de la mienne, hein, et qui même c'était un fossé entre les deux. C'était une rupture essentielle quand on se trouve séparé de ses parents par la culture. Et quand j'entends culture, c'est-à-dire que mon père avait une culture, mais c'était pas la mienne. Sa culture, c'était la culture paysanne, c'était l'amour du jardin, et c'était aussi la manière de vivre, tout simplement la manière de vivre. Et moi, ma manière de vivre à partir de l'adolescence, c'était une façon qui était complètement opposée, mais en même temps qui condamnait la sienne. Parce que, bon, les bonnes manières de table, par exemple, les films, lui, il adorait aller voir Fernandel et Bourville, et moi, à l'adolescence, c'était autre chose. Et cette coupure culturelle, chez tous les transfuges de classe, le mot qui n'existait pas quand j'ai commencé d'écrire La Place, c'est quand même celle-là qui est la plus profonde.
Et c'est tout en étant un transfuge de classe, la possibilité de dire « je ». Parce que votre œuvre est à la première personne du singulier.
Oui, sauf les années. Oui, elle est à la première personne du singulier, mais c'est un jeu que j'utilise comme un outil, c'est l'outil le plus facile, et en même temps que je justifie par le fait que quand on écrit « je », le lecteur, il lit « je » aussi.
Donc c'est le partage d'une expérience.
Oui, c'est ça. C'est le partage d'une expérience, mais en même temps, cette expérience, elle n'est pas donnée brute, elle est toujours réfléchie, elle est toujours située aussi. Elle est située sociologiquement, située historiquement. Donc, je suis très, très loin de l'autofiction et de l'autobiographie traditionnelle.
Donc, ce jeu, c'est à la fois de la singularité, votre vie, et du commun, la vie.
Et du commun, on peut dire universel, mais commun, c'est mieux. Parce qu'universel, on sait que ça n'existe pas. On essaye de tendre aux valeurs universelles, mais elles ne sont pas accomplies. Alors, en commun, c'est bien. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not
Annie Ernaux, I Will Survive, c'était une musique des années 90, période où se déroule ce nouveau récit, Le Jeune Homme. Et l'histoire est troublante puisque c'est l'histoire d'amour entre vous, je, et un étudiant qui a donc 30 ans de moins que vous, qui s'appelle A dans le livre. Une relation presque scandaleuse, car possiblement perçu, écrivez-vous, par le monde extérieur comme un inceste.
Oui, comme c'est une relation que l'on vit, j'allais dire comme vivent normalement un couple qui se rencontre, qui vit, va au supermarché, et bien, à ce moment-là, c'est tellement encore tabou, mais quelque chose que les gens ne pensent pas. Donc, ils ont un regard protubérant sur le couple. Et ce que moi, je perçois, ce que j'interprète, c'est qu'une femme de 50 ans et un garçon de 25, forcément, c'est scandaleux parce que c'est incestueux. Et il y a une chanson de Barbara que j'aurais pu citer qui est « Les amours incestueux ». C'est une très belle chanson. Ce sont les amours les plus belles. C'est le texte. Mais aussitôt, elle dit, elles sont condamnées aussitôt qu'elles commencent. Elles sont condamnées. Et c'est là-dessus que je ne voulais pas cette vision-là. Je ne voulais pas cette vision de dire, voilà, c'est condamné. Et donc, j'avais ce désir, au fond, de rien cacher, d'affirmer aussi. D'affirmer, parce que je sais que c'est mal vécu. C'est mal vécu par la société, surtout à cette époque-là.
Mais c'était quand même troublant pour vous aussi.
Oui.
Parce que vous racontez dans ce récit, le jeune homme, que cela vous renvoie à vos années d'étudiante à Rouen.
Ah oui, mais là, c'est un autre trouble. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que je revis, comme il habite Rouen, je revis avec lui ma vie d'étudiante à Rouen. Voilà. Et en même temps, il y a encore un fait encore plus troublant, c'est que son appartement donne sur l'Hôtel Dieu, qui est l'hôpital où j'ai atterri à la suite d'une hémorragie, d'un avortement clandestin. Et je peux voir depuis le deuxième étage, je peux voir la cour de l'hôpital, les fenêtres, et c'est un signe pour moi, c'est un signe absolument incroyable, un retour vraiment de ma vie à Rouen, même dans ce qu'elle a de plus tragique.
Mon corps n'avait plus d'âge, écrivez-vous, et on a le sentiment qu'avec ce jeune homme, le temps est aboli et que le récit est celui du temps retrouvé, en fait.
C'est le temps retrouvé sous une forme quand même très particulière. Ça n'est pas simplement comme chez Proust, une sensation avec la Madeleine ou avec le pavé de Venise, toutes ces expériences qu'on trouve dans le temps retrouvé. Là, c'est à partir du vivant. Il me fait vivre une vie qui est celle que j'ai vécue dans sa précarité, le froid de son appartement, l'inconfort, les habitudes qu'il a et que je n'ai plus, comme d'aller dans des bars étudiants. Et il me met en contact avec la jeunesse d'aujourd'hui aussi. Donc je ne suis plus nulle part non plus dans le temps. Je ne suis plus dans ma génération. Et ça, c'est pas désagréable, mais je ne suis pas non plus dans son temps à lui, je suis nulle part.
Annie Ernaux, vous citiez Marcel Proust, je vous oui. incite un peu à le citer en parlant du temps retrouvé. Il y a quand même une proximité entre vous.
Oui, parce que, bien sûr, c'est la mémoire et le temps qui nous requièrent sans doute l'un et l'autre profondément, oui. J'ai lu Proust très tôt, mais j'en ai fait plusieurs lectures et c'est à peu près à 45 ans que j'ai senti la proximité ou même j'ai compris l'œuvre qui m'était restée un peu étrangère à cause de son aspect social. Tout ce qui concerne toute cette noblesse, bien analysée, hein, c'est formidable, mais ça me reste comme un monde, un monde étranger.
Vous êtes dans un autre monde, celui du 21e siècle, du 20e siècle.
21e maintenant.
21e maintenant, et issu d'un monde plus simple, plus ouvrier, moins aristocratique et bourgeois. J'aimerais, Annie Ernaux, que vous lisiez un extrait de votre livre « Le jeune homme ».
Il y a 30 ans, je me serais détournée de lui. Je ne voulais pas alors retrouver dans un garçon les signes de mon origine populaire, tout ce que je trouvais plouc et que je savais avoir été en moi. Qu'il lui arrive de s'essuyer la bouche avec un morceau de pain ou qu'il pose le doigt sur son verre pour que je ne lui verse pas davantage de vin m'était indifférent. Que je m'aperçoive de ces signes, et peut-être plus subtilement encore que j'y sois indifférente, était une preuve que je n'étais plus dans le même monde que lui. Avec mon mari, autrefois, je me sentais une fille du peuple. Avec lui, j'étais une bourge. Il était le porteur de la mémoire de mon premier monde. Agiter le sucre dans sa tasse de café pour qu'il fonde plus vite, couper ses spaghettis, détailler une pomme en petits morceaux, piquer ensuite au bout du couteau, autant de gestes oubliés que je retrouvais en lui de façon troublante. J'avais de nouveau 15 ans et j'étais à table avec ma famille, mes cousins, dont il avait la peau blanche, les pommettes rouges des Normands. Il était le passé incorporé. Avec lui, je parcourais tous les âges de la vie, ma vie.
Annie Ernaux, vous êtes devenue une bourge au fil des ans.
On peut dire ça ainsi, oui. Oui, j'ai des goûts, c'est surtout là-dessus. J'ai des goûts, j'ai des lectures qui ne sont pas celles que j'avais même à 15 ans.
Pour autant, vous êtes toujours une femme de gauche. Vous l'avez dit, écrit, vous prenez parti quand beaucoup d'intellectuels aujourd'hui en France ne disent plus rien.
J'espère qu'avec la dernière élection, il y aura davantage d'intellectuels qui vont s'impliquer, je le crois. Bon, peut-être beaucoup n'ont pas senti partie, comme j'ai pu le sentir, ce délaissement par les politiques depuis presque 40 ans, disons à la mi-temps des années 80, des classes populaires et d'une indifférence là au peuple dans ce qu'il a, dans sa réalité. Moi, ça ne m'a jamais quitté. C'est vrai, j'ai toujours été de gauche et toujours pensé en termes d'injustice sociale, parce que moi, je la vois partout, l'injustice sociale.
Et elle est dans votre œuvre aussi.
Oui, c'est-à-dire, elle est comme une réalité du monde.
Le réel.
Le réel, oui.
Vous êtes aussi une femme qui revendique le combat féministe pour la visibilité et pour le droit des femmes. Et si on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis en ce moment, où le droit à l'avortement risque d'être remis en cause par la Cour suprême, on se dit qu'il y a urgence à réactiver tous ces combats.
Les réactiver absolument, mais je crois qu'il ne fallait surtout pas dire qu'on avait tout acquis, que maintenant l'IVG était répandue et que c'était un droit qu'on ne pouvait pas remettre en question. Mais je pense que les droits des femmes et l'existence même des femmes, c'est une question qui traverse le monde depuis qu'il existe, la place des femmes par rapport aux hommes, et qu'effectivement on a gagné en égalité, on a gagné en droit, mais c'est tout de même pas la franche égalité. Et les rôles des hommes et des femmes restent bien distincts. Par exemple, la maternité, et alors c'est ce qui se passe d'ailleurs avec cette remise en cause de l'avortement aux États-Unis, ça s'accompagne, mais pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe centrale, en Hongrie, en Pologne, par une mise en exergue de la fonction maternelle, de la maternité qu'on encourage. Et donc, le versus, c'est de condamner l'avortement, quoi. Et donc, ça reste fragile. On veut revenir à cette séparation des rôles masculins-féminins. Et il faut voir que, par exemple, le congé parental à la naissance d'un enfant en France, il a été 3 jours pendant des décennies. 3 jours. Alors qu'on sait que c'est au début de la vie qu'un enfant a besoin de son père pour le connaître, des deux parents. Les deux parents, et de même les grands postes, voilà. Si, on a pour la deuxième fois une femme première ministre, la deuxième fois en 30 ans. Ça en dit extrêmement long sur la domination masculine, hein, tout simplement, quoi.
L'avortement, vous l'avez vécu en 1963 et vous l'avez raconté dans un livre qui a été publié en 2000. Au moment d'ailleurs où vous vivez cette idylle avec le jeune homme. Ah, et Audrey Diwan en a fait un film couronné l'an dernier par le Lion d'Or à la Mostra de Venise.
Je veux poursuivre mes études.
Allez-vous-en, mademoiselle, nous n'avons plus rien à nous dire.
Qu'est-ce que tu cherches exactement?
De l'aide.
La loi ne fait pas de cadeaux.
Tu veux finir en prison avec elle?
Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie?
Je la règle comme je peux, moi.
Vous n'avez pas le choix, il faut l'accepter. Le corps réagit mal, il peut y avoir des complications. C'est un risque, c'est pas.
L'événement à la Mostra de Venise l'an dernier et cette année, Annie Ernaux, c'est à Cannes que l'on a découvert les années Super 8, film documentaire réalisé avec votre fils. Ce sont des images de famille, des images en Super 8. Est-ce que le cinéma est devenu votre affaire?
Pas du tout, pas du tout. Audrey Diwan s'est intéressée à mon texte, comme auparavant, une autre réalisatrice, Danielle Arbitz, s'était intéressée à Passion Simple. Et voilà, je suis heureuse de cet intérêt, mais je laisse toute liberté, d'ailleurs, aux réalisateurs ou réalisatrices. Donc, c'est ainsi que s'est réalisé l'événement. Pour ce qui est de ce film documentaire, c'est tout simplement le hasard de date. Le projet est né par des réflexions de mon fils il y a maintenant presque 7-8 ans, qu'en regardant ces films avec des petits-enfants, je devais m'instaurer la commentatrice parce que, bien sûr, mes fils étaient capables de reconnaître les personnages maintenant disparus, mais rien de plus, même pas le lieu souvent, et souvent pas la date non plus. Et moi, je m'étais instaurée la commentatrice de ces films, et c'est là que mon fils David dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un texte ?» Et moi, j'ai cru d'abord que c'était à usage familial, ce qui ne me disait pas grand-chose, je n'ai pas tellement envie. Mais il est revenu à la charge, mais cette fois en disant que « Non, non, ce serait... voilà, c'était vraiment un film. » Ah, bon. Et alors, c'était quelque chose de très, très différent, parce que là, c'était une lecture des images. Et je pouvais me remettre dans l'atmosphère à la fois politique, sociale, dans notre histoire familiale et dans mon histoire intime. Ce qui fait que dans le texte que j'ai écrit et que je lis dans le film, c'est à la fois l'histoire des années 70, l'histoire d'une famille qui devient plus ou moins bourgeoise et en même temps d'un couple qui commence à se séparer et aussi d'une femme qui écrit en secret un livre et qui va être publié.
Et ce livre, c'est
Les Armoires Vides.
Votre premier livre.
Premier livre publié.
Donc, si le cinéma n'est pas votre affaire, Annie Ernaux, c'est toujours la littérature. Dans l'atelier noir, vous dites « Je crois en la littérature comme en Dieu ». Avec quand même une certaine méfiance, parce que si je poursuis la lecture de ce journal écrit en 85, vous dites « Tout mon effort tend à faire de la littérature qui n'en soit pas ».
Et je crois qu'il y a tout là. C'est sans doute ma raison d'être. C'est pour cela que je parle de croire comme en Dieu. Mais maintenant, dans la pratique de l'écriture, c'est-à-dire qui se rapproche le plus de la réalité telle que je l'ai vécue, telle qu'elle est en moi. Et c'est cet effort qui est gigantesque d'écriture qui fait que je mets beaucoup de temps à écrire, oui.
Mais vous éliminez, vous corrigez, vous réduisez, vous utilisez ce mot de reprendre, reprendre l'écriture.
Reprendre l'écriture en général, c'est plutôt reprendre le texte abandonné, c'est ça que ça veut dire. Mais je corrige peu, enfin, je corrige au fur et à mesure, mais je ne réduis pas. J'écris mince, j'écris maigre, déjà. Il y a une phrase que j'ai dans un livre qui est, je crois, la honte. Écrire, c'est comme poser des pierres. Poser des pierres les unes à côté des autres. C'est-à-dire que des pierres, c'est lourd. Donc chaque mot doit être tellement lourd et doit être lourd de signification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des mots qui ont plein de sens. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce mot-là, il faut que je le ressente comme n'étant pas substituable par un autre. Qui veut dire vraiment ce que je veux dire. Et ce qui fait que je passe beaucoup de temps et d'autre part que je ne cherche pas des termes pour trouver le bon.
Mais écrire, c'est revivre dans ce cas-là?
C'est pas revivre, c'est pas comme dans Le Jeune Homme. Là, c'était vraiment revivre, c'est-à-dire c'est ce brouillage des temps. Ça, c'était revivre. Non, c'est donner une forme à la vie.
En exergue du Jeune Homme, il y a cette phrase, si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont seulement été vécues. Ça veut dire que la vie ne suffit pas?
Ah oui, c'est ça. Mais vous savez, j'ai écrit dans l'agenda de 1963, j'ai écrit une phrase de Crime et Châtiment. La vie ne lui avait jamais suffi. Il avait toujours voulu quelque chose d'autre. Je ne l'ai pas, là, je ne cite pas un exact, mais c'est écrit, quoi.
Mais comment penser une vie sans écriture?
Non, on ne peut pas penser. Parce que j'ai l'impression que si je n'écris pas, si je ne saisis pas quelque chose du temps qui passe, c'est comme si je n'avais pas vécu. Quoi. Ce qui n'est pas écrit n'est pas vécu. Voilà,
point.
Point.
Merci beaucoup Annie Ernaux. Le Jeune Homme est édité chez Gallimard, de même que L'Atelier Noir, qui est une partie de votre journal. Je crois que l'entièreté du journal sera publiée, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, à votre mort.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est sûr?
Oui, c'est sûr.
Rien avant?
Non.
À lire aussi Le Cahier de Lerne, qui vous est consacré, numéro 138, cahier dirigé par Pierre-Louis Faure. Merci beaucoup. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur le site RFI.fr et sur les réseaux sociaux.